RFI Podcast.
Bienvenue au Théâtre des Indépendances. Une série de 6 spectacles de fiction qui plonge au cœur des indépendances africaines, racontés par ceux qui en furent les premiers dirigeants. Félix Houphouët-Boigny, prophète en son pays. Chut, ça va commencer.
Que j'aime cette petite chanson. Ne sont-ils pas mignons ces enfants qui demandent à me bénir? Moi, leur père à tous, le père de la nation. Ode à Félix Houphouët-Boigny. C'était le titre. Elle avait été composée par un instituteur pour l'anniversaire de l'indépendance. Ah, je revois les mouchoirs s'agitant quand nous passions avec le cortège présidentiel. Je trouvais cette chanson tellement belle que j'ai demandé à ce qu'on la passe tous les jours à la radio. Ah, c'était beau. Les enfants. Vous aussi, vous êtes mes enfants. Peu importe votre âge, car je suis bien plus vieux que vous. Et je le serai toujours. Déjà de mon vivant, on m'appelait le vieux, alors pensez donc maintenant que je suis mort. En Afrique, quand un vieux part, on le respecte, on l'écoute. Quand il devient un ancêtre, ne pas l'écouter, c'est risquer le malheur. Et depuis que je suis parti, j'ai l'impression que on ne respecte plus rien. Et que même dans mon pays, ma chère Côte d'Ivoire, plus personne ne m'écoute. Mes enfants sont devenus sourds. Ils ont oublié l'importance de la paix. Quand je parlais de paix à mon peuple, certains parlaient à voix basse en disant « Le vieux radote toujours la paix, la paix. Est-ce que c'est la paix qu'on mange ?» Alors oui, la paix, on la mange comme l'igname qui nous régénère. On la boit comme l'eau qui nous fait grandir. On la respire comme l'air qui nous fait vivre. Que ceux qui n'ont pas compris ça aillent au diable. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis mon pays en enfer. Vous diriez peut-être que si les enfants sont devenus sourds, s'ils ont décidé de s'entretuer, ce n'est pas un peu de la faute de leur père. Chaque jour, depuis que j'ai quitté cette terre, cette question, je me la suis posée. Je pensais pourtant avoir réussi à commencer par le jour de l'indépendance.
Espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Nous irons de par le monde semer ton nom et tes bienfaits en clamant sur toutes les ondes que sur ton sol règne la paix. La paix, la paix. Elle était présente même dans l'hymne que les Ivoiriens ont entendu pour la première fois, ce 7 août 1960. Notre hymne national, c'est l'abidjanaise, une cousine de votre Marseillaise française. Oui, car nous sommes cousins. La colonisation a fait que nous soyons cousins par la force des choses, enfin, par la force. Je parle votre langue, j'ai été dans vos écoles. J'ai même été plusieurs fois ministre dans le gouvernement français et je suis le premier noir à avoir apposé sa signature sur la Constitution de la République, celle même que vous utilisez encore aujourd'hui. Je suis africain et j'ai été français et je serai, même au plus profond de ma tombe, un Ivoirien qui est un peu de tout cela. J'avais bien compris ça quand nous avons commencé notre marche pour l'indépendance il y a près d'un siècle. À l'époque, j'étais médecin auxiliaire, comme on disait. Parce que même quand nous étions brillants sur les bancs de l'école, et j'étais major de ma promotion, les étudiants africains avaient droit qu'à 4 années de médecine, d'études, la moitié de ce que pouvaient faire les étudiants français. Le système colonial était ainsi. Il ne fallait pas que les Africains soient au même niveau que les Français, il ne fallait pas que nous soyons égaux. Sinon, comment justifier la colonisation ? Hein ? Pas le profit, peut-être. Car les colons, eux aussi, avaient des plantations qui étaient bien plus vastes que celles de nos paysans. Mais ils avaient toutes les facilités. Ils réquisitionnaient de la main-d'œuvre gratuite. Et mon peuple, vous savez, hommes et femmes, devaient payer un impôt à la colonie chaque année en travail. Terrasser, damer les routes, défricher, c'était du travail forcé, comme votre corvée de votre Moyen-Âge. La colonie prenait les gens des villages les plus perdus pour les mettre à la disposition des colons, pour qu'ils travaillent dans leur plantation. Sûr, ils faisaient du bénéfice, et pas qu'un peu. Et si, j'ai dit, que la paix était utile à notre bien-être, j'ai aussi écrit que les colons devaient comprendre ceci. Sans notre bien-être, il n'aurait pas de paix.
Ça, c'est notre folklore baoulé.
Mais mon fils, le folklore baoulé a bien changé. Hein? C'est bien, très bien. J'ai oublié de vous dire que pendant toutes ces années à exercer le métier de médecin un peu partout en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de rentrer au village. Mon frère venait de mourir et il fallait que je reprenne le trône que mon père m'avait destiné, chef des Akoué avec tous ses attributs. Son trône, ses sandales, sa coiffe sertie d'or et ses terres. Autant vous le dire, j'avais de l'argent. Et cet argent allait me servir pour me lancer en politique. Il fallait en priorité créer un syndicat de planteurs africains. Mais les colons avaient bien le leur. Il fallait que nous nous réunissions pour être plus forts. Et en un rien de temps, nous avons été 20 000. Et c'était des troupes
qui allait me donner du poids. Surtout qu'arrivaient les élections où nous pouvions élire des candidats africains à l'Assemblée nationale française. Mais ça, je vous l'ai déjà raconté.
J'ai été souvent sollicité pour livrer mon mémoire, égrener mon souvenir de la marche difficile mais merveilleuse de notre mouvement. Avec humour, alors que l'humour n'est pas français, je vous ai toujours répondu en souriant. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Et vous m'avez dit, ils ont fait écrire par leurs disciples, mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Avait promis de conduire les peuples dont la France avait la charge jusqu'à la liberté de gérer démocratiquement leurs propres affaires. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la République française, nous, territoire, colonie, en ce temps la colonie française de l'Afrique, ont été sollicités pour envoyer des représentants au Parlement français. Ce que vous devez savoir,
c'est que les candidats suscités par la colonisation, appuyés par la colonisation, ont tous été battus dans tous les territoires africains. On avait crié sous le volet la liste de ceux qui pourraient voter. Les chefs de canton, les fonctionnaires, les quelques employés de commerce, les anciens combattants, on a cru qu'on pourrait influencer cela. Mais dans un sursaut de conscience, ils ont dit non et ils ont voté pour les véritables défenseurs de l'Afrique. Nous voici à Paris, sur les bords de Seine. Une poignée de jeunes gens venus défendre les libertés confisquées par la colonisation. Notre dignité, ça vous ne devez jamais l'oublier, piétinée par eux, alors que nous étions une infime minorité forcée de ruser et de chercher des alliances. Et c'est après avoir été élu député que j'ai rajouté Boigny à mon nom. Mon fils, Boigny, ça veut dire bélier, symbole de force et de sagesse. Quand je suis parti à l'Assemblée nationale à Paris, je ne suis pas parti les mains vides. J'avais dans ma poche un projet de loi, la loi de l'abolition du travail forcé et dans toutes les colonies. Vous pouvez vérifier dans vos manuels d'histoire, cette loi porte mon nom. Et cette loi a été votée à l'unanimité. Ah, ça c'était le coup d'envoi. Mais l'histoire est bien trop longue pour vous la raconter tout entière. Mais c'est après ça que nous avons créé ce mouvement transnational panafricain avec pour objectif unique la marche vers l'indépendance. Ce mouvement, le Rassemblement démocratique africain, RDA. Il était présent au Sénégal, au Mali, au Niger, en Haute-Volta, au Tchad, jusqu'à Et en Guinée aussi, j'ai failli oublier. Jusqu'au Congo-Brazzaville. Et bien sûr, chez moi, en Côte d'Ivoire. J'en étais le président, mais aussi le financier. Oh, en plus, je l'ai oublié. Avec l'argent du cacao, on peut tout financer, même le bouillant Sékou Touré en Guinée, que j'affectionnais tant. C'est moi qui l'ai aidé pendant ces années d'avant-indépendance. Notre RDA a vite été la bête noire des Français. Pourquoi? Pas seulement parce que nous cherchions l'indépendance, mais parce que nous étions affiliés au groupe parlementaire communiste. On nous a combattus, pourchassés. Certains sont même morts pour ça, jusqu'à ce que nous quittions les communistes pour rejoindre le parti politique d'un jeune homme, François Mitterrand. Le RDA eut alors droit de cité. Et comme nous étions majoritaires dans nos territoires, nous allions négocier notre accession vers l'indépendance. Le général avait mis en place une nouvelle constitution. La France, comme les colonies, serait soumise à un référendum. Ceux qui voteront le oui se retrouveront indépendants, mais garderont une relation très étroite avec la France, vu que c'est elle qui s'occuperait des affaires étrangères, de la monnaie, de la défense. Pour moi, c'était déjà une très bonne avancée, surtout que je ne nous estimais pas suffisamment prêts pour tout assumer par nous-mêmes. Et cette émancipation, pour ne pas qu'elle se retourne contre nous, je la voyais progressive. Le général l'avait dit. Ceux qui voteront non se retrouveront de facto indépendants. Et la France en tirera toutes les conséquences. Vous entendez? C'était une menace à peine voilée. Nous, au RDA, nous étions pour le oui. Et nous avions l'appui de nos populations. Je me rappelle même que la radio passait constamment une chanson en faveur du oui. Mon fils, est-ce que vous avez ça dans vos archives? Elle avait été écrite par un des hauts fonctionnaires de l'AOF, Afrique occidentale française. Et je tiens à ce que vous preniez de l'attention sur les paroles, mon fils.
Oh, dis-moi oui. Dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, vraiment c'est très bon. À choisir entre oui ou non, vaut mieux oui, oui, vaut mieux oui que non.
Arrive le référendum. Seule la Guinée de Sékou Touré dit non et se retrouve immédiatement indépendante. Et dans le pétrin, puisque les Français s'en vont du jour au lendemain avec l'argent et aussi le plan des infrastructures. La menace de De Gaulle se réalisait. Sékou était trop bouillant, trop radical. Il suivait Kwame Nkrumah dans ses rêves panafricains. Et Kwame Nkrumah, c'était le président du Ghana. Mais il ne voulait pas seulement être le président du Ghana. Il voulait être le président des États-Unis d'Afrique, disait-il. Le panafricanisme, je voulais le réaliser, mais dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je lui avais dit un jour, président Nkrumah, prenons nos deux pays et donnons-nous 10 ans. Et dans 10 ans, nous ferons l'état des lieux de nos deux pays. Il n'est même pas arrivé jusqu'à là. Son pays est tombé tellement bas qu'en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un dégringole, tombe dans la déchéance la plus totale, on dit qu'il est tombé comme Ghana. Et en 1966, Le rédempteur, comme il aimait se faire appeler, était chassé par un coup d'État. Ah, vous savez, c'était la mode à cette époque-là, hein? Pas chez moi. Une fois l'indépendance arrivée, je préférais les paroles mesurées aux déclarations enflammées et les réalisations concrètes aux idéaux lointains. Ces histoires de faire des fédérations qui regroupent plusieurs pays pour n'en faire qu'un, je n'en voulais pas. Mais que voulez-vous ? Avant l'indépendance, mon pays était la colonie la plus prospère des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Je comptais bien à ce qu'une fois indépendant, mon pays reste la locomotive des pays voisins qui seraient en quelque sorte nos satellites. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas pour habitude de m'auto-congratuler, mais merci qui ? Merci au Fouet Bani. Merci, mon fils. Et pendant de belles années, de longues années, le pays a progressé. L'école, la santé, l'agriculture, nous étions un pays qui se développait à vitesse grand V et dont la force était ses paysans. Moi-même, le président planteur, je n'en étais pas peu fier, pas parce que Abidjan était l'endroit où tout se passait. The place to be, comme vous dites aujourd'hui en imitant les Américains. Moi, à mon époque, on ne mettait pas l'anglais dans le français comme ça. Hein. C'est comme ça que commence la colonisation culturelle. Moi qui vous parle, je me suis battu pour que à l'ONU, comme dans toutes les instances internationales, on n'appelle pas mon pays Ivory Coast, mais Côte d'Ivoire. Même en anglais, ça sonne Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, dans le quartier du plateau, j'ai fait mettre des gratte-ciel hauts comme à Manhattan. Et mon hôtel Ivoire, j'y ai même fait construire une patinoire olympique, la seule en Afrique. Bon, j'avoue, j'ai un peu exagéré, mais tout compte fait, le monde entier venait à Abidjan. Les groupes industriels internationaux, la main-d'œuvre, le cerveau de toute l'Afrique et même les artistes.
C'est l'Abidjan, toi, rendez-vous des grands cœurs. Abidjan, ville des visiteurs. Chasse de ton ciel les nuages gris-noirs des capitales de la Côte d'Ivoire. Oh, belle Abidjan, fierté de l'Afrique, Abidjan au bord de l'Atlantique. Du peuple et quand on atteint Cocody, on se dit vivre à haut fouet poigné. Oh, belle Abidjan, métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal.
Ah, mon fils, elle était belle cette chanson de Taboulaye. Même les Aïrois de Mobutu venaient retrouver refuge à Abidjan. Manu Dibango s'occupait de l'orchestre de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Myriam Makeba venait à la maison et même les Cubains de New York ont chanté Abidjan.
L'orchestre Rebareto remercie le gouvernement et le peuple ivoirien d'avoir accueilli sa musique avec tant d'enthousiasme et le remercie de tout cœur de son hospitalité. Ce morceau est dédié à la Côte d'Ivoire.
Comme on dit chez nous,
Abidjan est grand, mais le monde est...
Ah, merci.
Ah, ça, c'est Ernesto Djedjé. Notre James Brown à nous. Ah, c'était un enfant de ce que les Européens ont appelé le miracle ivoirien. Il chantait dans un orchestre de San Pedro où j'ai fait construire un grand port pour y faire sortir notre cacao. Et pour que les cadres s'amusent le soir, ha, il fallait un orchestre. Voilà ce que je disais. On construit la paix. On développe l'agriculture qui fait notre force. Et on fait venir les capitaux et le café et le cacao feront le reste et irrigueront tout, même la culture. Et c'est ce mode de développement qui m'a permis de faire former les Ivoiriens dans les plus grandes écoles des États-Unis, de France et même au Canada, et j'en passe. Et doucement, mais sûrement, nous avions réussi l'africanisation des cadres. Oui, je sais, on me l'a souvent reproché, même quand je n'étais même plus là pour répondre. Nous étions très dépendants des Français. Ils faisaient de bonnes affaires chez nous et ils étaient nombreux. Longtemps, j'ai même fait mettre un conseiller français auprès de chacun de mes ministres. Et les Français se remplissaient les poches, mais dans mon esprit, la Côte d'Ivoire était aussi gagnante. Eux, ils investissaient, ils faisaient tourner les usines, ils apportaient leur savoir-faire, ils embauchaient. Et nous, nous avions l'économie la plus prospère d'Afrique de l'Ouest et nous étions les patrons de la sous-région. Ah, à dire qu'on disait que j'étais le pantin des Français. Moi, au fouet. Ah. Oui, j'avais choisi d'être leur relais en Afrique, mais j'avais droit à bien des égards et mon peuple avec moi. Oui, moi aussi, je me servais des Français pour accomplir mes propres objectifs, ceux qui servaient mon pays. Moi, je ne voyais pas ça comme de la dépendance, mais bien de l'interdépendance, comme celle des deux mains qui se lavent. Heureusement qu'il y a certains qui ont su rester reconnaissants, comme le jeune Alpha Blondy, par exemple. Il n'a pas attendu ma mort pour me rendre hommage. Lui.
Maintenant, vous pouvez. Bon, avec tout le respect que je vous dois, pardon, hein. Moi, je veux bien vous jouer encore des musiques à votre gloire. Mais à la fin de votre vie, il y a eu des musiques moins élogieuses qui décrivaient l'état du pays.
Mon fils, quand on ouvre la cage, les oiseaux qui n'ont pas l'habitude de voler en liberté sortent tous en désordre. La majorité d'entre eux se fracassent contre la porte. Et l'autre moitié sort et vous survole sur la tête en vous déféquant sur la tête. Est-ce que vous avez compris? Parce que, à la fin des années 80, le cacao qui avait fait notre force avait chuté et son coût avec. Et nous nous sommes très vite trouvés dans le pétrin parce qu'il n'y eut plus d'argent dans les caisses. Et je n'ai eu aucun autre choix que l'austérité proposée par le FMI. C'était le seul moyen d'obtenir des prêts. On a dû supprimer tous les fonctionnaires, les postes de fonctionnaires, les allocations sociales, les bourses d'études, tout ça, à croire que nous aussi, petit à petit, nous étions tombés comme Ghana. C'est après ça que je suis parti chercher Ouattara. Lui, il travaillait au FMI, il parlait le langage de ces gens-là et je lui ai même confié la gouvernance du pays. Mais la grogne sociale ne cessait de monter. Et comme les Ivoiriens n'étaient pas habitués à se priver, les professeurs avaient chauffé à blanc les étudiants qui descendaient dans la route en criant « Oufoué, voleur! Oufoué, voleur! Oufoué, voleur !» Vous vous rendez compte? Comme si un père pouvait voler ses enfants. Ces jeunes ne respectaient plus rien. Ils étaient devenus trop remuants. Et ils avaient besoin de plus de liberté. Ils avaient même inventé un style musical, le zouglou. Le zouglou en baoulé, ça veut dire ordure, déchet. Voilà comment ils se considéraient. Et ils voulaient la démocratie, comme si nous étions prêts pour ça. Moi, je le répète et je le répétais. Des colons, nous avons hérité un État, certainement pas une nation. Voilà ce qui risquait de se passer si nous passions à la démocratie trop rapidement. Les Baoulés allaient voter pour un candidat Baoulé. Les Bétés allaient voter pour un Bété. Et même les Sénoufos, eux aussi, allaient voter pour un Sénoufo. Une démocratie ethnique. Voilà pourquoi j'ai décidé de supprimer toute forme de parti pour n'en garder qu'un seul unitaire, le mien. Bon, j'ai même essayé de rajouter de la démocratie, mais dans le parti. Ils n'ont rien voulu savoir. Et après la chute du mur de Berlin et le vent de la démocratisation, je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir le jeu. J'ai même eu, en 1990, un adversaire au présidentiel, Laurent Gbagbo. Bien évidemment, j'ai gagné. Je n'allais pas laisser la gouvernance à des novices qui n'avaient même pas construit le pays. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à être fatigué. Peut-être parce que j'étais le dernier survivant d'une époque et que je ne comprenais plus ce monde qui voulait aller beaucoup trop vite. J'en avais connu des échecs, mais le pire de mes échecs restait à venir. Il a pris forme le jour de ma mort, annoncé le 7 décembre 1993, quelques jours après que j'ai rendu l'âme. Car en coulisses, les tractations avaient commencé. Qui pour prendre la succession? Qui prendrait le pouvoir? Les estomacs aiguisés n'attendaient que leur couteau. La bataille était lancée. Celle des Ivoiriens contre eux-mêmes. Embrigadés par des leaders irresponsables. Des leaders que j'avais vus. Tous nets, pour ainsi dire. Et maintenant, qui pensez-vous qu'ils citent dans leur meeting présidentiel? Moi, ou Fouéboing. Et maintenant, les gens ont peur des élections. De quelle démocratie s'agit-il si les gens ont peur d'aller voter? De quelle démocratie s'agit-il? Le vrai bonheur, on ne l'apprécie qu'une fois qu'on l'a perdu. Oui, même dans l'au-delà, on peut déprimer. Et c'est mon lot aujourd'hui, surtout quand je vois nos enfants s'adonner au coupé décalé, un style musical qui prône les mérites de l'escroquerie. Qu'est-ce qu'on retiendra de moi? Quelle image les gens vont retenir de moi? L'image d'un père qui n'a pas appris à ses enfants qu'il fallait par-dessus tout s'aimer? Tiens, il est temps de partir maintenant. J'ai assez parlé. Il est temps que je reprenne place dans les plis de l'histoire avec mes vieux compagnons. C'est que là-bas, il y en a de bien plus vieux que moi.
Ce matin, et tous les drapeaux ont baissé les yeux.
Je vous prie à son âme.
C'était Félix Houphouët-Boigny, prophète en son pays. Un spectacle écrit et mis en scène par moi-même, Vladimir Cagnolari, avec dans le rôle d'Houphouët, Nicolas Mouen, aux platines et aux machines, Practica. Une production du festival Africolor, enregistrée à Musique au comptoir Fontenay-sous-Bois le 15 décembre 2020. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série, le théâtre des indépendances, sur les sites et applications de RFI, et puis bien sûr sur votre plateforme de podcast favorite.